au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Jeudi 23 septembre, je tiens tout d'abord à remercier Michel Arnois qui a pu me remplacer dans les derniers jours en raison d'un vilain virus qui tend à disparaître, je l'espère. À l'émission aujourd'hui avec Jacques Plante, on va parler d'Éric Duhaime là, qui fait la cour à la députée Maïté Blanchette Vézina. Francis Charbonneau-Majou sera avec nous. Il est porte-parole d'un collectif citoyen qui vise la création d'une ceinture verte à Le Garneur. On parle d'inondation, là. Léonard Vex sera avec nous. Il est chargé de projet chez Tourisme Lanaudière. Il sera question des paysages touristiques. La docteure Lynn Couture, présidente de la FMOQ Laurentie de Lanaudière, va nous parler de la fédération là, qui veut poursuivre les négociations avec le gouvernement. Mais tout d'abord, avec nous, François Morin, qui est au bout du fil. On va parler là, du promoteur immobilier de Joliette, Jean-François Malou, là, qui écope de 57 mois de prison, soit une peine de presque 5 ans de pénitencier. Salut, François.
Salut, Claude. Ouais, ben, c'est une peine, en fait, qui tient compte d'une détention préventive qu'a déjà purgée Jean-François Malou en cours de procédure, parce que la sentence comme telle, c'est 5 ans. Alors, donc, on fait le retrait là, de cette détention préventive et on arrive à 57 mois à compter de ce jour, mais ce jour n'est pas arrivé parce que Jean-François Malou est toujours en cavale.
Oui, il est au large. On va faire, si tu veux, François, on va remonter le fil des événements concernant Jean-François Malou. L'histoire remonte déjà il y a plusieurs années.
Ouais, 2020, printemps 2020, il y a deux individus qui se sont présentés au domicile d'un avocat qui était représentant Maître Daudelin, qui était un avocat qui travaillait pour le mouvement Desjardins, et Desjardins étant en litige avec Jean-François Malou dans un dossier de plusieurs millions de dollars. Et Jean-François Malou, selon ce qui a été rappelé devant le tribunal cet après-midi, c'est qu'il a agi par vengeance à l'endroit de l'avocat et a commandé donc que ces deux hommes-là fassent justement un mauvais parti à l'avocat en question. Et effectivement, là, il avait été atteint d'une balle à une jambe à son domicile en Montérégie, du côté de Mont-Saint-Hilaire. Et Malou, là, finalement, l'enquête a révélé que Malou avait effectivement là, commandé ces gestes-là.
Et là, Malou ne s'est pas présenté en justice depuis un bon moment.
Depuis le 14 octobre, ouais. Il n'est pas là, on le voit pas, il s'est évadé dans la nature. Il a quand même réussi, ça, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à contacter le juge Denis Noël qui a rendu la sentence cet après-midi par courriel pour lui dire qu'il était prêt à se présenter en visioconférence. Mais finalement, non, même pas hier au stade des représentations sur la peine, et encore moins cet après-midi alors que la sentence a été rendue.
Et il n'a pas fait acte de présence, donc, par visioconférence, comme il le proposait lui-même. Il dit qu'il se présente pas parce que c'est dangereux pour lui.
C'est ça. Il aurait reçu des menaces, puis il avait peur de se retrouver en prison et de ne pas être protégé là, contre des individus qui pourraient lui en vouloir.
Bon, mon impression, c'est que Jean-François Malou a certainement quitté le pays, passé par la frontière américaine, peut-être dans le secteur d'Aquasasné, là, puis peut-être, il est même peut-être en Amérique latine, là, selon moi, là.
Il peut être n'importe où sur cette planète.
Oui, c'est ça.
Parce que s'il a réussi à communiquer par courriel, c'est parce qu'il peut, et l'informatique est en escalier, il y a Internet aussi, ben, il peut communiquer avec n'importe qui partout dans le monde ou presque.
C'est pas sans rappeler, moi, en fait, ça me fait penser un peu à l'affaire de l'éditeur homme d'affaires montréalais Michel Brûlé, qui était accusé d'agression sexuelle, s'était pas présenté devant les tribunaux et il avait pris le large et s'était retrouvé en Amérique du Sud. Et puis, il avait fait signe de vie à partir d'Amérique du Sud. Puis finalement, il est décédé, semble-t-il, dans un accident de vélo. Une histoire assez bizarre, là.
Oui, mais le parallèle, quant à moi, va s'arrêter là parce que Jean-François Malou, on ne sait pas du tout ce qui est arrivé avec lui. Peut-être qu'il n'est pas loin non plus, on ne sait pas. Bien caché, en tout cas, il n'y a pas personne qui l'a vu à sa résidence récemment.
Promoteur immobilier, propriétaire de plusieurs immeubles, il reste un certain litige, là, parce que je pense, entre autres, sur la rue Notre-Dame, dans le centre-ville de Joliette, cet immeuble historique, l'immeuble Bata, on se demande qu'est-ce qui va se passer avec cet immeuble-là. Et là, si le gars n'est pas là, s'il est au large,
Peut-être qu'il y a d'autres procédures judiciaires qui peuvent être entreprises pour saisir l'immeuble en question. J'en ai aucune espèce d'idée.
Parce que c'est, on est dû là, pour des rénovations dans cet immeuble-là. C'est à l'abandon depuis nombre d'années. On a bien hâte que ce soit réglé. L'immeuble est voisin du Sims Irish Pub, là, pour ceux qui veulent se situer géographiquement. Et c'est vraiment un bel immeuble historique. Et là, ça fait des années que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que ben, il y a litige dans le dossier de Jean-François Malou, là.
Et si on revient à la cause principale qui nous occupe aujourd'hui,
oui.
C'est que le juge a quand même mis 45 minutes à rendre son verdict, mm-hmm. Faisant état de la jurisprudence assez volumineuse que lui a remis la couronne dans des dossiers de voies de fait graves, ce sur quoi d'ailleurs Jean-François Malo avait été reconnu coupable. Et la défense, son avocat, avant même qu'il se désiste, décide de ne plus s'occuper de ce dossier-là, compte tenu de la situation. Là, Jean-François Malo, qui était introuvable, avait quand même eu le temps de soumettre la jurisprudence. Et là, on parlait dans d'autres dossiers de voies de fait graves, mais de moins grande importance, de peine variant avec peine avec sursis. Ça veut dire que tu purges une peine dans la collectivité ou même à la maison pendant une certaine période de temps avec des probations et tout ça, allant jusqu'à des peines de 4 ans de pénitencier. Alors, le juge est allé au-delà de cette peine-là, mais moins que ce que la couronne demandait. La couronne demandait entre 10 et 12 ans.
Ben, merci beaucoup, François Morin.
Et on en reparle bien sûr demain matin.
Ben oui. Voilà, donc on vous le rappelle, le promoteur immobilier Jean-François Malo qui écope de 57 mois de prison, soit une peine de presque 50 pénitenciers. Dans un instant, la docteure Lynn Couture.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
La Chambre de commerce du Grand Joliette et Service Québec Lanaudière t'invite à propulser ta carrière à la Journée de l'emploi le 6 novembre prochain au Club de golf de Joliette de 10h à 18h. C'est l'occasion idéale de rencontrer des employeurs locaux, explorer la formation continue et découvrir de nouvelles perspectives alors que plus de 500 postes attendent. Pratique ta poignée de main, apporte ton CV et ta bonne humeur et viens à la rencontre de grandes entreprises de la région. Pour plus d'informations, rendez-vous sur emploijoliette.com. Cet événement est présenté grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.
La collecte de fonds contribue dons du CABA est en cours. La grève de Poste Canada retarde la distribution des enveloppes de dons, mais vous pouvez toujours vous les procurer chez les partenaires comme les pharmacies Jean Coutu de Berthierville et La Valtrie, ainsi qu'à la Caisse Desjardins de Dautré. Et bonne nouvelle, vos dons sont doublés. Pour tous les points de dépôt, suivez la page Facebook du CABA, C-A-B-A, le Centre d'action bénévole d'Autré. Soutenir, rassembler, agir.
Imaginez un party de Noël au cœur de la nature, à l'Auberge La Barrière. Pour environ 35 $ par personne, célébré dans une atmosphère unique. Repas 3 services aux saveurs des fêtes, cocktails festifs, thématiques adaptées à vos goûts et à votre budget. Tout est pensé pour créer des souvenirs magiques. Pour une soirée sans souci, restez dormir sur place et profitez pleinement du moment. Réservez dès aujourd'hui au 450-884-5748. Auberge La Barrière, au 1000 chemins du Club de La Barrière, à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Un Noël féerique vous attend.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont poussé des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte pointe, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler
qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Elle est de retour, plus conviviale et solide, avec tout le contenu de votre radio. L'application CFNJ sur Android et Apple.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Sainte-Marceline-de-Kildare, La Noraine, Saint-Damien, Rodden.
CFNJ, 99.1-88.9.
Les chansons américaines... On est bien capable de s'en passer.
Lanaudière PM. Santé.
La Fédération des médecins omnipraticiens suspend son boycottage de l'enseignement aux étudiants en médecine et elle veut poursuivre les négociations avec le gouvernement. Pierre Jubinville en a parlé un peu plus tôt avec la docteure Lynn Couture de la FMOQ Laurentide-Lanaudière.
Oui, mais par la voie de la négociation.
Non, nous, on n'a jamais été contre l'idée de négocier, bien au contraire. Bien au contraire, ce qu'on souhaite, c'est une entente négociée, c'est ça. Puis c'est ça tout le temps pour tout le monde, t'sais, une entente qui est négociée, tu as l'adhésion des gens, puis à ce moment-là, c'est ce qui donne les meilleurs services. On n'a jamais été contre ça, bien au contraire. Puis même, on dit, si le gouvernement, lui, n'est pas prêt à mettre de l'eau dans son vin, allons en arbitrage, t'sais, trouvons une façon pour qu'on soit au-dessus de la mêlée puis qu'on enlève cette épée de Damoclès-là sur la population, parce que là, pour l'instant, c'est rien de bon qui est en train d'arriver pour personne.
L'arbitrage, justement, le gouvernement veut rien savoir, veut pas en entendre parler. Lucien Bouchard, hier, dans le dossier des spécialistes, parlait d'arbitrage non exécutoire. Est-ce que c'est la voie que vous favorisez?
Ben nous, on aimerait mieux un arbitrage exécutoire, parce que pour nous, l'idée, c'est de dire, ben arrivons à une solution, puis on voit là que c'est un gouvernement qui veut imposer ses vues, là, hein? On a vu là M. Legault qui dit, ben moi, je veux rien savoir, ça va marcher comme ça. Alors, c'est très inquiétant pour une démocratie quand les gens se mettent à dire des choses comme ça. Puis ce que j'ai cru comprendre à travers les lignes aussi ce matin, c'est qu'il y aurait des façons d'empêcher les médecins d'arrêter de pratiquer. Voyons donc comment on fait pour enlever des droits à des gens, puis en même temps dire on va écrire une constitution. Alors moi, ça me préoccupe grandement au niveau démocratique.
Dans cette fameuse quatrième offre, semble-t-il, il n'y a pas grand-chose de nouveau.
En fait, il y a juste du pire. Non, mais il n'y a vraiment pas grand-chose de très bon fait. Puis c'est vraiment, écoutez, le gouvernement parle toujours de son 15%. Mais je vous dirais, c'est loin d'être le 15 ou le 25% qui est inquiétant, là. C'est bien pire que ça, là. Et, je veux dire, grosso modo, là, puis je veux pas rentrer dans les détails, mais il nous offre de nous couper d'à peu près 50-60%. Puis après ça, de nous redonner potentiellement un 15% si on est très, très gentil. En gros, là, ça ressemble à ça. Alors, je vois pas grand monde qui sont prêts à baisser leur rémunération tout d'un coup comme ça. Surtout quand on leur en demande d'en faire plus, de rester ouvert plus longtemps et donc d'augmenter les dépenses pour maintenir le bureau ouvert plus longtemps. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'on trouve une autre façon de faire, là. Ça marche pas comme ça.
Justement, qu'est-ce qui permettrait un rapprochement sérieux?
Mais je vous dirais, la chose qui achoppe le plus, c'est sur la façon dont il veut qu'on change la pratique. On n'est même pas là sur le dollar comme tel, là. C'est pas ça qui choque le plus les médecins. Ce qui choque, c'est le fait que le gouvernement dise d'une façon autoritaire sans aucune négociation, ben vos moyens là, vos façons de travailler, ça va être comme ça. Vous allez travailler comme ça. Vous allez gagner comme ça. Puis vous n'avez pas un mot à dire. Ça reste tout à fait présent, ça, actuellement, sur la table avec le gouvernement. Alors ça, vous comprendrez que c'est pas acceptable. Parce que, oui, on a la prétention de dire qu'on est les seuls actuellement qui pouvons parler, entre guillemets, pour le patient quand ça ne va pas dans le système. Parce que tous les autres acteurs sont des employés de l'État et donc ont une loyauté envers l'État, ne peuvent pas décrier un système qui parfois est vicieux pour le patient. Nous, on a encore cette latitude-là de par notre statut. Maintenant, si le gouvernement, à travers sa loi, puis c'est un peu ça qu'il est en train de faire, veut changer notre statut, ben, soyons-nous, puis négocions, puis parlons-en, mais qu'ils le disent ouvertement. Là, c'est pas ça qui se passe, là.
Craignez-vous un exode de vos confrères plus vieux, peut-être, plus âgés?
Nous craignons un exode pas juste de nos confrères plus âgés. Actuellement, ce que l'on voit, moi, ce que je regarde sur les réseaux sociaux, je vois que les médecins se passent des façons de faire sur comment les pratiquer ailleurs dans d'autres provinces, comment se trouver des façons de se soustraire à cette loi-là. Pendant ce temps-là, l'Ontario fait des beaux yeux au Québec. La même chose au Nouveau-Brunswick. Hein, puis on voit des publicités qui disent « Vous voulez travailler à temps partiel? Venez chez nous! » En riant, parce que on sait très bien que les médecins ne travaillent pas à temps partiel. Hein. Les médecins de famille, ça travaille en moyenne entre 46 et 52 heures par semaine. Alors, actuellement, donc l'exode est réel. Il se passe des choses. On voit des médecins de famille qui quittent. Les plus vieux, c'est sûr que pour eux, c'est encore plus facile. Et le mal va être fait. Là. Une fois que quelqu'un va être parti, ça va être dur de le ramener.
Est-ce que l'exode pourrait amener des médecins à quitter pour le privé au Québec?
Bien, vous savez, le privé, c'est fermé, hein. Je veux dire, contrairement à ce qui avait été véhiculé au départ, que ce n'était que pour les 5 premières années de pratique, dans les faits, pour les médecins de famille, c'est fermé pour tous les médecins de famille, à moins d'aller faire de l'esthétique. Donc, les médecins de famille qui veulent donner des services réel vers du sans rendez-vous, des choses comme ça au privé, que ça fasse 25 ans, que ça fasse 30 ans qu'ils pratiquent dans le réseau public. Maintenant, ils doivent aussi demander à Santé Québec la permission d'aller au privé et Santé Québec les a tous refusés à date. Donc, l'œuf privé à toute fin pratique est fermé, à moins d'aller faire de l'esthétique. Alors, est-ce qu'on crée un gros exode vers le privé? Écoutez, moi, je pense qu'il va y en avoir. Mais je pense que les gens vont regarder surtout d'autres choses.
Quand vous parlez d'autres choses?
Ben, je parle d'aller vers d'autres provinces ou de changer complètement, changer soit la pratique. Pourquoi? Vous savez, les gens ont le droit de retourner faire une résidence en spécialité. Ils ont le droit de décider qu'ils vont utiliser leur titre de médecin, mais pour faire de la recherche, pour aller travailler en usine, dans toutes sortes de choses, là. On n'est pas obligé de donner des services à la population. Une fois qu'on a un diplôme de médecin, on peut faire plein d'autres choses. C'est sûr que l'objectif, c'est de donner des services à la population. Et nous, c'est ce qu'on veut qui arrive. C'est ce qu'on encourage. Mais je peux pas empêcher un médecin de vouloir sauver sa peau.
C'était la docteure Lynn Couture de la Fédération des médecins omnipraticiens, Laurentides, Lanaudière, la fédération là qui suspend son boycottage de l'enseignement aux étudiants en médecine, mais qui veut poursuivre là, les négociations avec le gouvernement.
Lanaudière PM, tourisme.
Tourisme Lanaudière dépose une analyse sur la valeur économique, sociale et environnementale des paysages touristiques de la région et portée par Tourisme Lanaudière en collaboration avec des partenaires régionaux, une initiative qui s'inscrit dans un plan, le cadre du plan Montagne de Lanaudière. Et François Morin a discuté avec le chargé de projet qui se nomme Léonard Vec.
Alors, c'est une étude qui est à destination des différents décideurs et aménagistes du territoire. Donc, au niveau touristique, les applications, elles sont nombreuses, mais principalement, cette étude des paysages, elle va permettre de mieux décider, en fait, déjà de mieux connaître notre territoire, de considérer notre paysage comme un actif en termes d'économie, en termes social, en termes environnemental. Et puis, ça va nous permettre de mieux nous guider dans la mise en place d'éventuels projets qui seraient discutés sur un territoire donné. Ça pour toute la région. Et puis, c'est vraiment un outil qui va être utilisé par les MRC, les municipalités, certains promoteurs et des organisations qui sont là pour accompagner et guider les promoteurs dans certains projets. Donc, ça peut être appliqué au niveau du tourisme, comme au niveau de la mise en place de projets résidentiels ou pour la gestion du territoire. On parle de coupe forestière, évidemment, c'est un contexte qui fait beaucoup jaser. Donc, c'est un outil qui vraiment tous horizons et qu'il faut le dire, est quand même un outil vraiment neutre, donc qui va permettre à différents gestionnaires de territoire d'être guidés de manière impartiale.
Est-ce que c'est la première fois au Québec qu'une telle étude est réalisée pour le compte d'une organisation touristique?
Alors non, c'est pas la première fois. On a la chance d'avoir eu un premier exemple par Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc on a suivi un petit peu leurs traces pour cet outil-là. Donc on a mandaté une firme sur appel de projet. Et puis donc c'est la firme DDM en collaboration avec les topographes qui a eu le contrat. Et puis on a été récemment livré.
Je me mets un petit peu, et sans vouloir me faire l'avocat du diable, je me mets un petit peu à la place des consommateurs. Je me dis, j'ai pas à payer pour un paysage. Est-ce que malheureusement, ça risque de se refléter dans le prix qu'on demande aux gens quand il est temps de louer un espace, que ce soit un hôtel, un motel, un terrain de camping ou se rendre à une destination touristique?
Alors, c'est indirectement, on paye toujours plus ou moins un paysage. Ceci dit, il faut garder en considération que un paysage, c'est une aménité. C'est quelque chose qu'on ne doit pas payer, qui est gratuit, qui est fourni par la nature. C'est comme boire de l'eau ou respirer l'air pur. Donc, cependant, cette étude des paysages-là, elle permet de donner une valeur à ces éléments-là qui sont pas forcément palpables. Donc, la valeur dont tout le monde parle, c'est la valeur financière. Donc, on est capable de comparer le potentiel, finalement, en termes de valeur, différentes entités du territoire, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau environnemental ou social, par rapport aux services rendus, que ce soit un service écosystémique ou un service à la population, un service environnemental ou économique.
Et est-ce que d'une autre façon, on pourrait utiliser les résultats de cette étude-là pour protéger justement des paysages là, qu'on va qualifier de grandioses?
Oui, absolument. C'est d'ailleurs même le fondement de cette étude-là, finalement, dans le cadre du Plan Montagne, qui est le programme qui a pu permettre de mettre en place cette étude-là, ce qui nous a été demandé en concertation, parce que c'est une demande du milieu finalement, on nous a demandé, on a besoin de protéger mieux nos paysages. Donc il y a divers enjeux qui pèsent sur nos paysages, quels qu'ils soient. Donc la demande qui nous a été faite, c'est aidez-nous à mieux connaître pour mieux protéger.
Donc, j'imagine qu'il y a des gens, des entreprises qui veulent faire du développement, soit résidentiel ou même de la coupe forestière, seront sensibilisés justement aux résultats de cette étude-là?
Oui, absolument. Ça fait partie intégrante des plans de développement ou d'un éventuel business plan qui devrait être pris en considération. Donc, les éventuels promoteurs ou les gestionnaires ou les entreprises de coupe forestière, je les invite fortement à contacter leur MRC, éventuellement les municipalités, en tout cas des aménagistes qui seront des gardiens, tout comme Tourisme La Naudière, de cette étude-là. Afin de nous concerter pour avoir finalement des données qui pourront les guider dans la mise en place de ces projets-là pour faire valoir des arguments qui pourront être en faveur ou en défaveur du projet, mais en tout cas de toujours de manière neutre et raisonnée pour le bien commun finalement.
Bon voilà, c'était Léonard Vec, il est chargé de projet chez Tourisme La Naudière. François Morin s'est entretenu un peu plus tôt avec lui. Il est 16h29.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour Charles de Gaulle, ça devient plutôt dense un peu après Bourget et ce, jusqu'à Henri Bourassa. Remarquez qu'on garde une bonne vitesse, là, mais il y a quand même des précipitations dans le secteur, alors soyez prudents. Traversée facile vers la rive nord, Repentigny, ça roule quand même assez bien. 40 Est, la 341 entre la 40 et la rivière de l'Assomption, là, toujours passablement chargé, même de l'autre côté là, de la rivière de l'Assomption, sur la montée de l'Épiphanie, là, c'est quand même très, très lourd dans le secteur. Le pont de la 25, ouais, si je regarde de ce côté-là, c'est dense depuis Henri Bourassa. Et ça demeure dense même aussi du côté de Laval, là, jusqu'à la hauteur du boulevard des Mille-Îles. Côté Terrebonne, 25 Nord, ça se passe bien. Pont Sophie-Masson, on circule sans problème. Bon, finalement, autoroute 640, on a eu des problèmes là, un peu plus tôt. Ça demeure dense, le secteur de la 25 en direction est. Il y a eu accident un peu plus tôt à la hauteur de la montée du Mai, mais encore c'est dense, là, passablement dense sur environ 1 km, secteur de la 25 en direction est. Et pour atteindre la 40, pour la suite des choses, ça va quand même assez bien. Et 640 en direction ouest, c'est quand même pas si mal, malgré qu'on est nombreux, le secteur de la montée des Pionniers. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Les préarrangements funéraires font partie d'une bonne planification successorale. Prenez en main votre destin posthume avec la coopérative funéraire de Matawini-Montcalm. Épargnez cette lourde tâche à vos proches. Soulagez-les de décisions difficiles en période de deuil. La coopérative funéraire de Matawini-Montcalm, née de la fusion des coopératives funéraires de Saint-Jean-de-Mata et de Montcalm, vous accompagne dans cette démarche. Et ce, dans le respect de votre budget et de vos croyances. Toujours avec flexibilité et bienveillance, 5 points de service. 450-886-3763 et 450-839-3450.
Chaque hiver, des familles réalisent trop tard que leurs parents n'est plus en sécurité à la maison. Au Manoir La Tourelle, les aînés profitent de l'intimité de leur studio avec les services de repas, d'entretien ménager et des soins adaptés. Nos places sont limitées, pensez-y maintenant. Visitez manoirlatourelle.com ou appelez le 450-271-1037 pour planifier une visite. Pour un milieu de vie chaleureux et sécuritaire.
La Chambre de commerce du Grand Joliette et Service Québec Lanaudière t'invite à propulser ta carrière à la Journée de l'emploi le 6 novembre prochain au Club de golf de Joliette de 10h à 18h. C'est l'occasion idéale de rencontrer des employeurs locaux, explorer la formation continue et découvrir de nouvelles perspectives alors que plus de 500 postes attendent. Pratique ta poignée de main, apporte ton CV et ta bonne humeur et viens à la rencontre de grandes entreprises de la région. Pour plus d'informations, rendez-vous sur emploijoliette.com. Cet événement est présenté grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.
Vendre ou acheter une propriété vous fait peur?
Ah ben, c'est simple. Contactez-moi.
Simon Mercier, courtier immobilier résidentiel.
Et commercial.
Royal Lepage Partenaire, agence immobilière.
Je vous invite à être à l'écoute des après-midi de Claudine pour découvrir un concours exclusif aux membres de CFNJ en collaboration avec Son X Plus Joliette. Je ne vous en dis pas plus, soyez avec moi, soyez à l'écoute du lundi au jeudi de 13h à 16h dans les après-midi de Claudine pour tout savoir sur le concours Son X Plus Joliette, exclusif aux membres de CFNJ.
Le retour de la grande vente folle chez Ameublement SJ Dion pour 5 jours seulement. Meubles démonstrateurs, fin de ligne et produits déballés jusqu'à 70%. Des meubles neufs à des prix fous. Les nouveautés arrivent et on manque d'espace. Nos trois étages sont remplis de prix réduits. Premier arrivé, premier servi. Jusqu'au 25 octobre seulement. Ameublement SJ Dion, 1 rue Gauthier-Nord, Notre-Dame-des-Prairies.
Ben, c'est le moment de retrouver Pierre Jubainville avec l'actualité scène régionale. Ce qui retient vraiment l'attention, Pierre, cet après-midi, ben, c'est Jean-François Malot là, qui est cop de 5 ans de prison. Pierre, faudrait ouvrir le microphone. Bon, Pierre, est-ce que t'es là? Bon, viens donc, viens de mon côté. Pierre était dans l'autre studio. C'est qu'on a décidé de se distancier pour pas que je lui transmette de virus. Et là, on n'arrivait pas à retrouver Pierre avec le contact avec son studio. Alors, il va faire le show dans mon studio. Donc, Pierre Jubainville, je le disais, le voici, le voilà, il est là. Jean-François Malot, Pierre, qui est cop de 5 ans de prison.
Oui, c'est beaucoup moins que ce que réclamait la couronne. Le juge a rendu sa sentence cet après-midi en l'absence de Malot, qui, on le sait, est en cavale. François Morin résume.
Le juge Denis Noël aura mis 45 minutes avant de rendre sa décision, faisant état de la jurisprudence soumise par la couronne et par l'avocat de Malot avant que ce dernier demande et obtienne de se retirer. Le magistrat a à maintes reprises souligné la gravité de s'en prendre à un membre du système judiciaire et l'importance des séquelles physiques et psychologiques pour lui et ses proches. Rappelons que l'avocat Nicolas Daudelin, qui représentait Desjardins dans un litige contre Malot, a été atteint par balle à son domicile au printemps 2020. Les hommes de main embauchés par Malot pour faire le travail purgent des peines de 9 et 10 ans. Le juge a dit tenir compte que bien que ce soit Jean-François Malot qui a commandé l'attaque, ce n'est pas lui qui a tiré. La couronne avait suggéré une peine variant entre 10 et 12 ans et la défense, une des peines variant entre une peine avec sursis allant jusqu'à 4 ans de détention. Le juge Noël a conclu en souhaitant que justice soit faite et que l'accusé soit bientôt arrêté. François Morin, CFNJ Nouvelle.
Et maintenant, Pierre, développement à l'avenir dans le dossier entre les médecins et le gouvernement.
Disons que ça brasse beaucoup dans ce dossier-là. Aujourd'hui, la Fédération des médecins omnipraticiens accepte de suspendre le boycottage de l'enseignement aux étudiants en médecine. La Fédération des médecins omnipraticiens réitère sa disponibilité à poursuivre les négociations intensives. La présidente de la FMOQ Laurentier de la Nodière, la docteure Lynn Couture.
Non, nous, on n'a jamais été contre l'idée de négocier, bien au contraire. Bien au contraire, ce qu'on souhaite, c'est une entente négociée, c'est ça. Puis c'est ça tout le temps pour tout le monde, t'sais, une entente qui est négociée, de l'adhésion des gens, puis à ce moment-là, c'est ce qui donne les meilleurs services. On n'a jamais été contre ça, bien au contraire. Puis même, on dit, si le gouvernement, lui, n'est pas prêt à mettre de l'eau dans son vin, allons en arbitrage, t'sais, trouvons une façon pour qu'on soit au-dessus de la mêlée puis qu'on enlève cette épée de Damoclès sur la population, parce que là, pour l'instant, c'est rien de bon qui est en train d'arriver pour personne.
S'il se dit ouvert à poursuivre les négociations dans les prochaines heures, François Legault martèle que les médecins devront d'abord accepter qu'une partie de leur rémunération soit liée à des indicateurs de performance.
Je vois que les fédérations disent, surtout la FMOQ, on serait peut-être prêt à discuter, sauf que pendant tout l'été, ils nous ont dit on est prêt à discuter, mais en autant qu'on change pas le mode de rémunération. S'il y a des avancées significatives avec la FMOQ ou avec la FMSQ, on est prêt à bouger.
Et par ailleurs, Pierre, il y a des médecins qui songent déjà là, à quitter la profession.
Oui, c'est un cas assez patent. Les négociations, donc, sont, faut le dire, là, sont dans un cul-de-sac. Il n'y a rien de nouveau aussi du côté des spécialistes depuis leur conférence de presse hier. Il y a des médecins qui commencent à songer à des retraites anticipées, massives. Et on en a un, le docteur Jean-François Forcier. C'est un médecin de famille à Drummondville. Lui, il a pris sa décision. Il quitte la profession.
C'est décidé. Je contemplais la retraite. Là, j'ai 60 ans et plus. Je contemplais la retraite d'ici quelques années. Quand j'ai vu tout le discours là, désobligeant là, qui se mettait sur la place publique avec le gouvernement, toutes les fausses vérités là, qu'on entendait, c'est définitif. Moi, je quitte la pratique. Un peu à regret, mais je continuerai pas dans ce climat-là. De me faire taxer que je suis paresseux, que je gagne pas de l'argent, puis de tout ça, c'est...
Et puis, c'est fini pour les signes religieux dans les garderies.
Ouais, Québec va de l'avant avec l'interdiction des signes religieux pour les éducatrices en garderie. Le ministre responsable de la laïcité, Jean-François Roberge, dit agir par souci de cohérence.
Le port des signes religieux est déjà interdit pour le personnel des écoles primaires et secondaires. Le ministre Jean-François Roberge a l'intention d'étendre la mesure au CPE.
C'est important, je pense, d'offrir un cadre qui est neutre aux élèves.
Ce sera l'un des éléments de son projet de loi qui vise à renforcer la laïcité de l'État. Mais il veut y aller progressivement.
Donc moi, je veux juste préciser que on a l'intention d'y aller avec la clause de droit acquis.
Le mois dernier, les militants caquistes ont voté en faveur d'une motion qui interdirait de se couvrir le visage dans les espaces publics. Le ministre dit être toujours en réflexion là-dessus.
Il faut être modéré. Il faut être en phase avec les Québécois.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Juste pour ajouter, quand on parle de signes religieux, Pierre, souvent c'est la population d'origine arabe ou musulmane là, qui se sent ciblée. Là. Mais ça va de soi aussi là, pour les petites croix, les crucifix, tout ça, là, c'est out complètement.
Ouais, c'est out, oui, effectivement. Bon.
Merci Pierre Jubainville.
Au 99.1-88.9-CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
Des citoyens victimes d'inondations à Repentigny l'an passé là, ne veulent plus revivre pareille situation. Ils se sont regroupés en un mouvement citoyen pour un projet collectif là, qui vise la création de ce qu'on appelle une ceinture verte, spécialement dans le secteur de Le Gardeur. Et notre collègue Régent Turgeon a rencontré leur porte-parole, François Charbonneau-Majot.
Monsieur Charbonneau-Majot, ben justement, ce comité mouvement citoyen pour un projet collectif à Repentigny, qui sont ces citoyens?
Bien, au départ, ce sont des voisins. Donc, les voisins à proximité du lot 2 101 997, qui est un terrain cultivé de l'autre côté de la piste cyclable longeant le boulevard Le Bourgneuf dans le secteur Le Gardeur. Donc, c'est des citoyens qui, en majorité, c'est des citoyens qui ont été inondés l'année dernière, le 9 août. Donc, les gens ont été inondés en masse. Puis, le ruisseau La Grande Débouche qui sert justement à faire évacuer l'eau. Pour réduire le risque d'inondation. Donc, les citoyens, quand ils ont été informés qu'il y avait ce projet-là, qui s'en venait, ben, on peut dire que la réaction a été épidermique. Ils en voulaient pas parce que ça leur faisait vivre le cauchemar de l'année dernière.
Mais c'est quoi, ou juste une ceinture verte, justement?
Oui, donc dans le fond, la ceinture verte, c'est un concept qui existe dans plusieurs grandes villes, Montréal, Toronto, même Londres en ont, puis ils protègent des bouts de territoire, puis ça peut être des terres agricoles, des terres cultivées, donc des terres de différentes sortes, puis on a décidé de nommer ça ceinture verte. Ce sont 8 lots, donc 8 terrains qui appartiennent à des propriétaires privés, mais qui sont cultivés ou qui sont boisés, puis qui sont situés à l'extérieur du périmètre urbain de la ville. Donc ils sont pas inclus dans la zone agricole protégée, mais ils sont pas ils sont zonés blancs, mais ils font pas partie de la ville. C'est comme des excroissances de la ville.
Donc, alors, en créant cette ceinture verte-là, il arriverait quoi, justement? Protéger ces habitations-là?
Oui, le but, ce serait de protéger ces terrains-là pour réduire, justement, tu sais, on fait face à une crise du logement d'un côté, mais il y a la crise climatique de l'autre. Donc, en fait, on comprend que la ville, puis nous aussi, on vit avec la crise du logement. Hein. Donc, on est propriétaire, mais on a acheté avec des prix qui ont explosé. Donc, on est les premiers conscients, tu sais, qu'il y a une crise du logement. Mais on n'est peut-être pas les plus importants, on est impactés comme tous les citoyens. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que justement, les citoyens, ils se sont quand même levés pour vouloir protéger ces terrains-là, malgré le fait qu'il y a une crise du logement. Qu'est-ce que ça nous dit sur la valeur collective de ces terrains-là, puis dans l'imaginaire des gens? Moi, je trouve que c'est parlant.
Il faudra faire quoi, justement, pour protéger cette ceinture verte-là? Qu'est-ce que l'administration municipale, même la MRC, pourrait faire?
Ben, il y a possibilité de... Ben, d'abord, nous, on prône pas l'imposition d'une solution. C'est-à-dire, nous, on pense qu'elle doit être co-construite. C'est par le dialogue qu'on va co-construire une solution. Donc, nous, on n'a pas eu la chance de parler avec les propriétaires. On sait pas ce que la Ville a fait comme démarche encore. Mais la Ville nous a dit qu'ils travaillaient sur des scénarios pour équilibrer les positions des différents acteurs, dont celle des citoyens. Donc nous, ce qu'on espère, c'est arriver à un consensus pour arriver à une protection, mais qui convient à tout le monde.
Vous avez déjà interpellé, justement, vous venez de le dire, l'administration du maire Dufour, l'équipe de M. Maxime Comtois, qui est son adversaire dans la campagne électorale. On juge, au moment où on se parle, que ce sont des engagements encore trop vagues de leur part.
Oui, bien, on voit une ouverture. Clairement, on a parlé avec eux. Ils sont tous ouverts là, envers l'idée de ceinture verte. Mais c'est quand vient le temps de dire concrètement comment ils vont le faire. Là, on peut comprendre peut-être que là, la Ville travaille sur des scénarios. Donc, on comprend que l'administration a pas toutes les réponses. L'opposition n'est pas au pouvoir. Ils ont pas toutes les réponses. Mais ça serait bien d'avoir un engagement concret. Oui, on veut le faire. On va aller de l'avant sous réserve de contraintes. Bon.
Vous proposez à la future administration municipale, qui sera élue là, le 2 novembre, de mettre sur pied une table de quartier pilote dans le secteur de la Gardeur, ce qu'on pourrait concevoir comme un concept de dialogue permanent.
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on a vu, parce que moi, dans le fond, au départ, quand j'ai vu qu'il y avait une affiche au fond de la rue Bertrand, puis qu'elle était peu, dans le fond, peu visible pour la majorité des gens, ben j'ai fait du porte-à-porte, j'ai parlé avec des dizaines de citoyens, puis ça fait des mois que les citoyens nous écrivent. Puis ce que je vois, c'est que les citoyens, parfois, se sentent pas écoutés ou compris par la Ville. Puis moi, je pense pas nécessairement que c'est que la Ville n'est pas à l'écoute, mais je pense qu'il y a un manque. Il y a quelque chose à combler entre les deux pour réconcilier les deux positions. Puis la table de quartier, je pense que c'est justement l'intermédiaire parfait pour réconcilier les positions. Un lieu où la Ville peut entendre les citoyens, puis peut leur répondre aussi, discuter avec eux en permanence.
C'est pas nécessairement une consultation publique pour autant, ça, là.
Non, c'est sûr que c'est pas une consultation publique, mais justement une consultation publique, c'est un événement ponctuel où on écoute les citoyens. Et là, c'est un dialogue permanent où en permanence, Ville et citoyens échangent et peuvent se comprendre.
Ça pourrait faciliter la concrétisation de cette fameuse ceinture verte?
Ben, on pense que oui. Mais ça pourrait aussi concrétiser à long terme d'autres projets, renforcer, dans le fond, améliorer le quartier Le Gardeur, répondre à des besoins qui n'ont pas encore été identifiés par la Ville, peut-être que les citoyens ont. Donc, il y a un potentiel énorme avec cette table-là.
Prochaine étape, quoi? On continue la mobilisation, on continue de suivre le développement de la campagne électorale, on sensibilise les politiciens encore davantage.
Oui, on continue à sensibiliser. Donc, via notre page Facebook, on va émettre d'autres communiqués pour continuer à sensibiliser, tenir les gens informés du dossier. Mais nous, nos propositions sont sur la table. Puis maintenant, on considère que la balle est dans le camp de la Ville puis des candidats.
Sous-jacent à tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de frustration, peut-être, sur la façon de gérer ce type d'événement que vous avez connu l'an passé et qu'on veut pas qu'il se répète?
De la part de la municipalité.
Frustration de la part de votre comité, de vos membres?
Non, ben il n'y a pas de frustration. Les gens sont vraiment, ils sont porteurs d'espoir. C'est ça qui est beau, c'est que, justement, oui, il aurait pu y avoir une colère. Les gens qui sont pas contents de la façon que ça a été géré, mais je réalise qu'on a réussi à canaliser l'énergie citoyenne vers de l'espoir et quelque chose de porteur pour l'avenir. Puis ça, c'est, en fait, c'est une belle victoire, je pense.
Ben, celui que vous venez d'entendre, il se nomme Francis Charbonneau-Majot. Il est porte-parole d'un mouvement citoyen pour la création d'une ceinture verte, là, spécialement dans le secteur de Le Gardeur, là, pour contrer des situations d'inondation. Dans un instant, Jacques Plante.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont poussé des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte pointe, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière Remax Prestige, 514-503-8684.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Profitez de rabais exceptionnels sur nos modèles 2025 pendant qu'ils sont encore disponibles. Kicks, Sentra, Rogue et plus encore. Venez voir pourquoi Nissan a été nommé marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs par J.D. Power. Nos conseillers se feront un plaisir de vous accompagner lors de chaque étape du processus. N'attendez plus. Passez en concession dès maintenant au 800 boulevard Basse-de-Roc à Joliette et repartez au volant de votre nouveau véhicule. Joliette-Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, L'Expert Dépanneur. À Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, les délices de Lourdes. À Sainte-Élisabeth, dépanneur chez Napol. À Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle. Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, dépanneur Proxy Extra. Et marché IGA Rainville. À Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, L'Expert dépanneur. Marché Express Ultramar, dépanneur du Lac-Noir. Et à Saint-Damien, marché Métro Imri, dépanneur Le Rendez-vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Acheter local, c'est plus important que jamais. Pour trouver ce que vous cherchez dans votre entourage, rendez-vous sur notreentourage.ca. Mettez-le dans vos favoris sur votre cellulaire. C'est rapide et garanti 100% local. N'oubliez pas de conserver notre répertoire reçu par la poste ou visitez votre mairie pour vous en procurer un.
Imaginez un party de Noël au cœur de la nature, à l'Auberge La Barrière. Pour environ 35 $ par personne, célébrez dans une atmosphère unique. Repas trois services aux saveurs des fêtes, cocktails festifs, thématiques adaptées à vos goûts et à votre budget. Tout est pensé pour créer des souvenirs magiques. Pour une soirée sans souci, restez dormir sur place et profitez pleinement du moment. Réservez dès aujourd'hui au 450-884-5748. Auberge La Barrière, au 1000 chemins du Club de La Barrière, à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Un Noël féerique vous attend.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Salut Jacques.
Salut mon Claude, bonjour tout le monde, au collègue Pierre Jubinville, ça fonctionne.
Oui, Jacques est dans son studio. Jacques, il veut pas attraper mes
micros. Non, ouais, je voudrais pas. C'est bien gentil de ta part de me permettre d'être dans notre studio. Oui. Mais au crédit de notre ami Jubinville, je dois dire, moi j'ai triché parce que je suis allé voir Nicolas. Pour être sûr que, parce qu'il y a beaucoup de boutons.
Être sûr que tout ça fonctionne. Hey, on va parler d'Éric Duhem là, qui fait la cour à la députée Maïté Blanchet-Vézina.
Oui, ben tu sais, Éric, on avait déjà parlé de lui, hein, dès que quelqu'un, il avait fait ça avec Yoli Chassin aussi, dès qu'il y en a un qui quitte le caucus...
De la CAQ.
Il fait son lobby, puis ouais. C'est correct. Alors, il continue à faire sa job, et on le sait, Maïté Blanchet-Vézina, là, est sortie avec fracas de la CAQ.
Hein, députée de Rimouski.
Oui, exactement. Oui. Elle est devenue indépendante, mais elle n'a pas mâché ses mots.
Tout hein. De suite après le remaniement ministériel.
Exactement. Ouais. Et là, il y a eu une rencontre.
Elle avait demandé, d'ailleurs, la démission de François Legault.
Oui, exactement.
Ouais,
exactement.
Legault démissionne. Là.
Et elle et Éric Duhem se sont rencontrés en milieu de semaine sur l'heure du lunch, et ont discuté, et après ça, évidemment, Éric Duhem a posté ça sur ses réseaux sociaux.
Ah, ben oui, il va se faire de la publicité avec ça, c'est
ben
sûr.
Oui, ben oui, puis comme je te disais, il fait sa job. Elle a dit qu'elle va demeurer indépendante jusqu'à la fin du présent mandat. Quand on regarde les sondages, on sait très bien que c'est pas demain la veille que les gens qui va avoir beaucoup d'élus de la CAQ, même si elle est indépendante.
Ouais, ouais.
Ça aussi, quand tu te présentes sous la bannière indépendante, là, c'est pas fort.
Ouais, non, non, hein? Non, c'est un coup d'épée dans l'eau. Là.
Donc, si t'as l'idée de revenir en politique, ben là, tu vas te présenter sous l'égide d'un parti.
C'est ça.
Et elle mentionne, parce que les journalistes y ont posé des questions suite à sa rencontre avec Duhem, elle mentionne. J'ai pas vraiment de choix, mais je suis prêt à discuter avec les partis. Et quand on regarde la position que prend la CAQ de plus en plus, ben ça serait plus aller vers Éric Duhaime et le Parti conservateur que le Parti libéral, notamment.
Oui, ben elle est ouverte, donc peut-être à se présenter pour un autre parti à la prochaine élection. Oui. Est-ce que ce sera conservateur, libéraux, hein, on ne sait pas encore, ou peut-être elle va renouer avec son ancien chef, François Legault, qui sait. Mais pour faire un brin d'histoire... avant l'arrivée de Maurice Duplessis au pouvoir, je t'en parlais un petit brin tout à l'heure avant d'ouvrir les microphones. Là.
Vous allez vous apercevoir, les amis, que Claude a trouvé que j'avais de la mémoire.
Oui, parce que je lui demande qui était premier ministre avant Maurice Duplessis, chef du Parti libéral corrompu jusqu'à l'os. Ben, c'était...
Godbout.
Adélard Godbout. Libéral. Et il y avait à cette époque des députés libéraux qui avaient claqué la porte du Parti libéral. Ils avaient fondé un parti qui s'appelait l'Action libérale nationale.
Ouais, genre de caucus indépendant.
Ouais, c'est ça, si tu veux, ouais, des indépendants. Ouais. Et ils ont eu des rencontres avec Maurice Duplessis et ils ont formé à ce moment-là l'Union nationale. On a sabordé le Parti conservateur dont Duplessis était à la tête et on a formé l'Union nationale. Bon, à ce moment-là, le Parti conservateur avait des députés déjà en chambre. Là, maintenant, le Parti conservateur n'a pas de députés. On n'est pas vraiment dans la même position, mais quand même, il pourrait peut-être avoir une alliance entre ces députés-là et former un autre parti ou peut-être des conservateurs.
Là, des sièges indépendants, il y en a quand même quelques-uns à l'Assemblée nationale. Oui. Alors ça fait une bonne partie de pêche pour Éric Duhaime. Alors, il continue tranquillement à garder des bons liens avec ces gens-là.
Il y avait un article dans le Journal de Montréal de ce matin que j'ai trouvé très intéressant. Justement, c'est un article sur ces trois députés dissidents du parti de François Legault, Youri Chassin, député de Saint-Jérôme, Maïté Blanchette-Vézina de Rimouski et Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est.
Oui, lui aussi qui avait demandé, là, lui voulait être ministre dans son coin.
Exactement. Il voulait qu'il y ait des représentants de l'Abitibi, justement, qui siègent au Conseil des ministres.
Et il s'est fait damer le pion parce qu'il pensait d'être nommé, il a pas été nommé. C'est le PM qui a pris la région en haut. Là.
Alors, ces trois députés-là ont déménagé leur bureau à l'Assemblée nationale. Ils ont changé d'étage et ils se retrouvent entre le PQ et Québec solidaire. Donc, ils ont leur bureau là-bas. Ils travaillent... leurs bureaux sont voisins. Et on travaille en tant que députés indépendants. Et dans cet article dans le Journal de Montréal, ce que je trouve bien intéressant, c'est que on fait allusion à la fameuse ligne de parti.
Ouais.
Et ils sont libres, sont libérés maintenant de cette ligne de parti-là.
Exact. Et quand on parlait de caucus qui s'organise, ben dans le fond, ces trois-là, c'est un peu ce qu'ils font. Là. Ils communiquent ensemble, ils jasent ensemble, ils sont libres, comme tu viens de l'évoquer, de pouvoir faire leur intervention. Ils n'ont pas beaucoup de temps de parole, là, évidemment, à l'Assemblée nationale, mais ils ont beaucoup plus de latitude que de suivre la fameuse ligne de parti.
Quand même assez intéressant, ça. C'est à suivre, évidemment. Merci beaucoup, Jacques.
Hey, salut, Claude. Soigne-toi bien.
Ouais, ça va de mieux en mieux. Bonne fin de journée. j'en profite pour saluer et remercier nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui. François Morin, Pierre Jubinville, Régent Turgeon, ainsi que Jacques Plante, que vous venez d'entendre ici, Claude Fournel. Passez une excellente fin de journée. Nicolas Bellemare sera là dans un instant pour vous présenter le 5 à 7 trad et à la vie dans la Naudière. On nous amène du côté de Notre-Dame-des-Prairies. Bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine, lundi. On sera là pour un autre La Naudière PM. Ciao.